Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait, l'émission qui vous parle, qui vous fait, qui nous fait rien. On vous propose de découvrir un comics avec nous, d'où le nom de l'émission, Comics Discovery. J'espère que vous l'aviez depuis le temps qu'on fait de cette émission. Cette semaine, on va apprendre.
Ils ne font pas tout en anglais. Hein.
Ouais, ouais, ils doivent pas le dire en VO, vraiment. Si, cette semaine, on va apprendre que l'amour est éternel. Sachez-le, puisqu'on vous parle de Love Everlasting de Tom King et Elsa Chartier. Cocorico, la petite Frenchie Elsa Chartier. On lui fait un petit coucou si elle passe. Nous écouter, parce qu'on l'aime beaucoup. Dans l'émission, on avait eu la chance de la croiser à plusieurs dédicaces. Mais avant toute chose, je vais accueillir mon équipe, une équipe 100% féminine, et ça c'est trop trop cool, avec Angèle qui oublie toujours de mettre son portable en silence. Bonjour Angèle, est-ce que ça va Angèle?
C'est surtout que là je sais même pas où je l'ai remis, je l'ai retrouvé.
Ah, bon, moi c'est
sinon pratique. Oui, ça va très bien.
Eh bah, trop cool. On est aussi avec Léna. Salut Léna, ça va Léna?
Salut James, bah ça va très bien.
Avec Sophie, salut Sophie.
Salut.
Et avec Faye.
Oui, bonjour.
D'ailleurs, avant qu'on se lance dans l'amour éternel, petite update, on a discuté un peu avec l'équipe par rapport aux news et il va y avoir des petits changements. Je vous en parle tout de suite parce que ça va peut-être changer la façon dont vous écoutez Comics Discovery, puisque en fait, maintenant, il va y avoir peut-être avoir plus qu'une seule émission. On va oublier le côté review news. Et en fait, va y avoir l'émission review que vous pourrez écouter, que vous allez retrouver sur cette chaîne et sur ce flux RSS si vous nous écoutez en podcast. Et on va faire une nouvelle émission. On n'a pas encore le nom de l'émission. On est en brainstorming avec Faye et puis avec les autres membres de l'équipe. Donc, n'hésitez pas à nous donner des superbes jeux de mots autour des news et de la pop culture et peut-être qu'on piochera votre jeu de mots. Pour l'instant on ne sait pas trop. On va ouvrir les news à toute la pop culture pour parler de ciné, pour parler de séries, pour parler de jeux vidéo, pour parler de tout ce qui nous intéresse. Et donc il va y avoir une émission consacré juste à ça. Pour le live, pour les gens qui nous écouteraient en live, ça va pas changer grand chose puisqu'on va continuer à enregistrer les deux émissions l'une juste après l'autre. Mais après, pour ceux qui nous écouteront en podcast, au début je vais continuer à les mettre sur ce flux, mais on va peut-être faire un flux dédié où vous pourrez les retrouver, cette nouvelle émission qui n'a toujours pas de nom, je le rappelle. Et pour les vidéos, on va les mettre sur la chaîne de James et Faye, une vieille chaîne qui est un peu inactive, et du coup on va se permettre de la réactiver avec cette chaîne. Voilà, c'était tout ce que
j'avais à voir. On va essayer de centraliser certaines émissions dessus pour que ce soit plus simple à gérer pour nous.
Vous retrouverez, normalement, on a supprimé les rushs, les deux minuit et la nouvelle émission sur la chaîne de James F. N'hésitez pas à aller la retrouver. Il y a encore plein de vieux trucs. Mais fouillez pas trop parce qu'il y a des trucs qu'on n'assume pas trop. Donc voilà, s'il vous plaît.
C'est pas con. On a viré ce qui était vraiment mauvais. Après, vous allez voir, on a changé depuis.
Oui, on a changé. Ça a beaucoup changé, effectivement, en tant d'années. Ça fait un moment qu'on est sur Internet.
Ah, mais j'ai une tête de vieille dépressive folle alors que c'est plus du tout moi maintenant. C'est affreux.
On l'a viré, le tout premier qui cancérait X-Files.
Attends,
tu veux dire que maintenant vous allez mieux dans votre tête? Et que vous avez entendu ce qu'elle a dans la cave? Zut alors.
Oui, moi je vais très bien maintenant, je suis toute lumineuse.
En parlant de cadavres, tu me fais une superbe transition pour vous annoncer un autre truc. Si vous écoutez Geek en série et sachez qu'avec Sophie et Faye, nous sommes des vrais détectives, des vrais inspecteurs de police, puisqu'on a parlé de l'entièreté de la série True Detective, les 4 saisons.
J'ai encore failli donner le mauvais titre.
Elle a failli, effectivement. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'émission, n'hésitez pas, il y a un petit bonus à la toute fin de l'émission. je vous laisse la découvrir. Tout simplement, vous verrez ça.
Ça m'a traumatisé.
C'est très drôle. Et donc voilà, donc on a parlé de tout, de toutes les saisons. T'as vu que la première? Et bah la première elle est bien, mais c'est pas la meilleure. Et on a failli se battre.
Alors,
à mort avec Faye.
Alors on est pas tous d'accord. Non. Et il faut écouter l'émission pour savoir c'est laquelle la préférée de chacun. Voilà.
Ouais, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, dites-nous votre préférée.
Ouais. Je sais pas si Léna t'as vu la 2, je suis sûr qu'elle te kifferait. Non, c'est pas toi Léna. Tu t'appelles pas Léna encore. Je sais pas si t'as vu la saison 2, mais je suis sûr qu'elle te plairait la 2 parce que pour moi c'est la meilleure.
Mais j'en ai vu aucune. Juste... Et moi, on m'a dit que la 2, c'était la pire.
Ah non, non, il y a Colin Farrell avec une magnifique moustache. Et rien que pour la moustache de Colin Farrell. En fait, la 2, bon, je vais pas relancer, mais la 2, c'est la plus difficile à appréhender parce qu'il y a
beaucoup de personnages. Sinon, tu pourras pas faire une heure de news, James. Hein.
Ouais, voilà, on va aller. Mais allez écouter l'émission. En plus, on spoil pas trop. Il y a une partie spoiler, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est vrai, on spoil pas trop. Bah ouais, c'est pas...
Moi, non, je peux
c'est...
vous dire la fin.
C'est la fin, mais pas une série très positive, en tout cas.
Ça dépend des saisons.
Ne regardez pas ça pour vous dire « Ah, je suis pas bien en ce moment. Je vais mater trop détective, ça va me remettre... »
Ça me file la pêche, hein, petit
ouais. Ah, la 4, elle est géniale.
Bah, après, ça dépend. Si t'es un futur tueur en série, ça peut te donner la pêche.
Tout à fait. Ah oui.
Ça manque de cannibalisme.
Mais finalement, ça parle pas tant que ça des tueries. Hein. C'est plus, ça parle plus de flics que de.
Mais c'est une série sur les flics. Bon, on va pas faire l'émission.
Justement, tu t'attacheras au détective et peut-être que tu te retiendras de tuer quelqu'un. Donc, encourageons les gens qui ont des puces en meurtrière à regarder tes émissions. Bon, on arrête.
Et Spitz qui propose la saison 5 de Trop Détective à Mudaison. Et bah, sache
Titou
que.
Titou Détective, excellent. Détective.
Et bah, sachez que cette semaine, Titou Détective m'a envoyé une nouvelle.
Attends, moi, je sais mieux.
M'a envoyé une Mudaison News. Bon, je parlerai pas dans l'émission News, mais il y avait Dupond-Moretti à Mudaison. Donc, le garde des Sceaux. Donc, vraiment, bah, c'est peut-être. Ça commence maintenant, hein,
Mais non, moi, j'ai Titou qui ferait équipe avec Michel Sardou pour résoudre des enquêtes paranormales parce que n'oublions pas qu'on avait appris que Sardou il était un peu médium et qu'il aimait ça.
Ah
tu
oui,
vois.
C'est vrai. Et en Sardou, plus, il a dit cette semaine qu'il aimait Taylor Swift.
Il a dit qu'il aimait la musique de Taylor Swift, qu'elle avait l'air sympa. Voilà. Donc même Sardou valide Taylor Swift. Vous n'avez
Sardou
plus
est
le
un
choix.
Swiftie. Donc voilà.
Vous avez plus foi.
Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour Taylor Swift d'avoir Sardou.
Non, je pense qu'elle serait pas contente. Mais je sais pas si Sardou sait qu'elle est pas du tout du même bord que lui. Hein. Voilà. Bon.
Bah après, elle est sans doute pas au courant de tous ces petits dossiers quoi.
Ah non, je me ferai un plaisir de lui faire un historique de Taylor.
Peut-être qu'elle fera une reprise de.
C'est quoi, le temps de Béni des colonies, très bonne idée.
Ouais, voilà, le temps, c'est ce que j'allais
dire. Je pense pas qu'elle le fera.
Donc voilà, après toutes ces digressions, on va passer à la reco, puisqu'effectivement, il y a toujours une reco. On va pas oublier cette tradition. Et tiens, je vais commencer parce que je suis un peu dans le sel et je vais continuer à parler de trucs. Moi, j'avais une non-reco parce que bon, Faye m'a déconseillé de la faire, mais je le fais quand même. Parce
ah ouais,
que
toi, tu veux souffrir, tu veux que les gens se mettent à dos.
Il y avait des auditeurs qui s'étaient un peu vexés du fait que de tout ce que j'avais dit dans l'émission de Geek en série sur Big Bang Theory. Et je sais pas pourquoi on est tombé dessus sur NRJ12 et puis je me suis dit tiens je vais remater pour pouvoir me dire ah, peut-être qu'avec un peu de temps et un peu moins de genre un peu moins de sel et peut-être que je pourrais réapprécier la série et dire à ces auditeurs qui s'étaient dit t'as été un peu trop véhément avec
non
avec
mais surtout ça va pas dans ta tête j'aime, tu peux regarder autre chose comme Twin Peaks en fait il fait ça juste pour pas continuer
j'ai
Twin Peaks
j'ai vraiment pas envie de revoir Twin Peaks
mais quelle
enfin,
pourriture
de voir Twin Peaks, parce que j'ai pas vu
Ah, et donc,
je me suis refait des épisodes de Big Bang Theory, et en fait, je suis encore plus énervé par la série qu'avant, quoi. Enfin, il y a des trucs que j'avais loupés, mais en fait, cette série, elle est tellement problématique, mais par tellement, tellement de points. C'est super raciste, c'est super misogyne, c'est super masculiniste toxique, mais enfin, il n'y a aucun des personnages. Ah, mais ils sont tout le temps en train de s'envoyer des boîtes comme ah t'es pas assez viril, oh regarde toi t'es pas assez viril, ah machin il est pas assez viril, enfin vraiment mais les personnages sont toxiques les uns avec les autres, il y en
a aucun. Moi je pense que c'est maladroit mais je pense que ils cherchent à dénoncer les mantras de la société.
Bah non c'est fait de façon full premier degré.
Après, c'est fait pour le pour moi, c'est une série qui a, je pense, à peu près la même idée à la tête que Community, mais qui fait tout mal, comme il ne faudrait pas le faire, pour se mettre au grand public, quoi. Et en fait, si tu trouves que c'est cool de mettre des personnes neurodivergentes et des geeks mal foutus et qui ne correspondent pas au canon de la société, regarde plutôt Community, c'est plus drôle. Et les personnages sont plus respectés, je trouve. Mais même
Community, c'est beaucoup mieux. Ça aurait pu être intéressant de dire ah oui, bah, en fait, ils sont en train de présenter des personnages un peu atypiques qu'on ne voit pas de partout. Et ça aurait pu être intéressant. Mais en fait, ils les rentrent tous dans le moule de l'américain moyen, mais ils le rentrent au forceps. Mais comme c'est pas permis. Mais
attends, James, rappelle-toi, Energy 12, ils ont repassé mon oncle Charlie. Et je m'étais dit, c'est pas si mal que ça. On a revu mon oncle Charlie. Et ce que j'ai retenu, c'est que toutes les femmes sont des S bip, qui veulent que l'argent et se taper des mecs. Et c'est ça dans tous les épisodes. Et du coup, je me dis, putain, je m'en rappelais pas ce souvenir-là. Et alors, c'est grossophobe, c'est raciste. C'est tout ce que, en fait, ça fait toutes les cases, mon oncle Charlie. Hein. Vraiment, c'est un. Et je peux te dire que, du coup, Big Bang Theory, il y a quand même une petite évolution. Mais c'est pas encore ça. Voilà. Bon, en tout cas, je maintiens l'analyse que j'avais faite dans l'émission.
Merci, Alena, qui est beaucoup plus rapide que moi pour.
Merci,
pour ban les trucs qui vont pas. Non, mais vraiment, autant la première fois, ce qui me dérangeait beaucoup, c'était le côté, ce qu'ils font de la culture, de la pop culture et qui s'en font. En fait, c'est vraiment le gag c'est South Park où les Griffins, en fait, c'est juste des blagues qu'ils prennent dans une espèce de ils choisissent des blagues au hasard et ça en fait des situations. Mais en fait là c'est la même chose, ils ont un grand bol avec toutes leurs références de pop culture. Souvent c'est des trucs de Warner, puis ils sont en lien avec Warner et ils prennent un truc, ils vont on va utiliser cette référence, mais ils l'utilisent pas, ils en font rien du tout. C'est pas intéressant. Mais encore, ça c'est rien comparé au côté masculiniste et misogyne et homophobe du show, qui est latent sur toute la longueur. Et c'est vraiment
le contre-roco, du coup.
Ouais, c'est contre-roco. Vraiment, ne regardez pas. Et si vous aimez Big Bang Theory, revoyez-le et revoyez. Enfin, je trouve que le fond de la série est vraiment nauséabond.
Mais tu sais, moi, j'avais expliqué de façon calme et posée dans le podcast. Et regarde, moi, c'est très bien passé.
Mais vraiment,
moi,
ça m'a énervé.
Tu vas avoir des problèmes encore.
J'avais besoin de l'extérioriser un peu. Ça m'a fait du bien.
Après, c'est une sitcom, hein. Moi, j'ai tout regardé, j'ai aimé.
Oui, mais derrière le truc sitcom, tu peux dire où tu te prends pas la tête.
La plupart des sitcoms véhiculent les valeurs familiales américaines, et du coup,
ça fait peur.
T'es pas d'accord avec, forcément, ça va pas.
Après,
malgré le fait que toi, tu la regardes en te posant le cerveau, ça véhicule quand même ces clichés-là, et même si toi, tu te dis, oui, bon, ok, c'est juste un truc que je prends, tu te prends tous ces clichés, tous ces trucs de pleine face, et ça va te rentrer dans la tête, et c'est des trucs que tu vas ressortir après.
Non. Tout ce que tu dis, le côté racisme.
Mais le fait qu'il soit tout le temps en train de se dire ah oui, qu'il faut être par rapport à Rajesh par exemple, la seule vanne autour de Rajesh, c'est qu'il est indien et c'est de véhiculer des clichés ultra racistes sur.
On n'est pas là pour refaire Geek en série. Ouais,
oui. Des fois, c'est aussi des fois de l'humour un peu mal placé. Je vais prendre un exemple que nous on a au taf. Dans le service après vente, il y a, je sais pas s'il est marocain ou algérien. Dernière fois, je parlais avec des gars du SAV. Il arrive et il lui dit salut pois chiche et couscous. Mais c'est de l'humour et le gars,
personne
ne
le prend pas mal, c'est pas forcément.
Le gars, c'est un jeu. Non, il le prend pas mal du tout. Puis il me regarde, il dit t'as vu comment il parle, c'est des bandes de racistes et tout, mais c'était sur le ton de l'humour. Donc à ce niveau-là, il y a pas de souci. Quand t'as mon responsable, il est marocain, des fois il parle de dromadaires, de trucs comme ça, mais c'est dans l'humour. Donc faut pas.
Après ça dépend parce que pour moi le racisme ça dépend aussi. L'humour peut être raciste si t'as une position de dominant. Par exemple, t'es le patron et tu fais un humour raciste et qui est offensant pour la personne, et en dessous de toi, elle peut pas dire que c'est offensant parce que elle a peur de perdre son job. Et là
c'est le cas. Il est tout seul dans le groupe et s'il gueule sur le fait que et les seules fois où il essaie de se rebeller un peu sur ça, il se prend le groupe de plein fouet en mode non mais c'est bon
James, on va pas faire ça.
On va pas se lancer sur un autre.
Je t'avais dit de pas la faire.
Moi j'ai vraiment, je trouve que c'est vraiment compliqué cette série, et effectivement regardez Community, parce que Community c'est vraiment mieux et c'est vraiment mieux écrit. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner, tout simplement?
Je peux si tu veux.
Vas-y
Sophie.
Alors j'ai hésité sur la reco, mais finalement je vais faire une que je vais en parler après plus longuement dans Sur Froide, qui est pour Une Cubus, qui est un film de 1966 réalisé par un autre mec toxique, parce que visiblement il a poussé sa femme au suicide, donc c'est pas bien, ne faites pas ça les gens. Mais il a fait un film intéressant qui est assez féministe, je trouve, puisque on y voit des effets de femme sorcière ondine qui pousse les mauvais hommes à un petit suicide dans l'eau, voire les meurtres, enfin les tue dans la mer. Et on a du coup cette bataille entre du coup le mal et le bien, qui est représenté par un mec qui serait une âme noble, mais qui n'est peut-être pas si noble que ça. Et du coup, l'acteur principal, c'est William Shatner, que vous avez vu dans Star Trek, pour ceux qui aiment Star Trek. Voilà, Captain Kirk. Et c'est un film... alors, sa particularité, c'est qu'il était tourné en espéranto, du coup, qui est une langue qui est pratiquée, mais quand même par une minorité qui est... pendant longtemps, il y a encore des gens, je crois, qui ont l'espoir que ce soit une langue parlée à travers le monde entier qui réunit ces gens. Donc, il y a un côté... assez marrant de cette langue qui est très utopiste au final, dans un film d'horreur qui parle de choses assez basiques entre les forces du bien et les forces du mal qui vont lutter. Il y a une esthétique, moi, qui m'a beaucoup rappelé Le Septième Sceau, d'Ingmar Bergman. Et en plus, c'est un film un peu maudit qui était récupéré et retrouvé grâce à la copie, à une copie retrouvée dans la Cinémathèque française. Donc, Cocorico, le sauvetage de ce film. Et du coup, voilà, il y a le chanois Chat qui fume, qui en a proposé une version restaurée. Alors, malheureusement, la Poste a niqué complètement mon coffret, mais les disques étaient saufs. J'ai pu voir le film, qui est vraiment cool. Voilà. Voilà, donc si vous voulez voir une petite perle et mettre en avant. Un vieux patrimoine cinématographique qui a été tombé complètement des études et qui revient grâce au travail des artisans qu'on a dans le domaine. Bah, faites-vous plaisir.
Moi, je confirme, il est très cool le film.
C'est quoi les... j'ai vu une news avec René Château et le chat qui fume. Je sais pas si t'as vu ça sur Twitter.
Mais il est mort.
Je suis
René
pas
Château,
sur Twitter.
Ah.
Mais j'ai pas vu passer. Mais
je crois que le chat qui fume a racheté le catalogue.
Bah, c'est possible parce que là René Château est mort. Parce que j'ai vu passer un article sur lui, justement, où ça récapitulait tout ce qu'il avait fait et tout ça. Enfin,
voilà. Ok. Faye, est-ce que tu veux enchaîner?
Oui, alors moi j'ai une reco positive. j'ai vu qu'aujourd'hui on fêtait les 25 ans d'une série que j'adore, qui fait partie de mes séries préférées, qui est la série Farscape. Donc il y a une série de science-fiction, voilà, qui a inspiré par exemple Les Gardiens de la Galaxie, le film. Et en gros, ça raconte l'histoire de John Crichton, qui est un scientifique qui a trouvé un moyen en fait de pouvoir voyager rapidement dans l'espace en utilisant la gravité autour des planètes. Enfin, j'ai rien compris, c'est un truc scientifique. Mais en faisant ça, il se retrouve balancé super loin dans l'univers, et il va rencontrer un groupe de prisonniers qui s'échappent donc de leur prison et qui prennent le contrôle d'un Léviathan, qui est une espèce de vaisseau organique du nom de Moya. Et donc, il va les rencontrer, faire équipe avec eux, et ensemble, ils vont voyager dans l'espace, vivre plein d'aventures et tout. Et ce qui est génial, c'est que il y a beaucoup d'humour dans la série. C'est-à-dire que le personnage de Crichton, il arrive et il est tout le temps en train, en fait, de parler de références culturelles, que ce soit de pop culture, historique, voilà, d'autres choses, terriennes. Et donc, les autres persos comprennent pas. Il y a des épisodes qui sont complètement barges, des épisodes où, genre, il va tout voir en dessin animé. Enfin, c'est vraiment une série qui est hyper cool. Les personnages sont attachants. On a vraiment ce côté un peu esprit de famille. C'est vrai que si vous aimez Buffy, par exemple, en termes d'écriture, vous allez vous retrouver dedans. Alors, c'est une série qui est d'origine australienne, qui avait été faite par Syfy. Et vous avez tout ce qui est maquillage, marionnettes et tout. C'est fait par le fils de Jim Henson, donc avec la Henson Company. Et voilà, j'adore cette série. Vous avez 4 saisons et un film. Et vraiment, voilà, c'est une série extraordinaire. C'est une super série de science-fiction. Et c'est un bijou. Et qu'il faut le... Voilà, si vous avez l'occasion, allez-y, découvrez-la. Il y a des DVD qui sont disponibles. vous pouvez trouver. Alors parfois c'est un peu dur, mais ça se trouve. Et j'aimerais bien que Netflix, par exemple, ou une autre plateforme, remette la série dessus, parce que vraiment, voilà, Farscape, c'est une série géniale. Moi, j'avais découvert ça en premier. Je crois que c'était sur Série Club ou sur Canal, non, sur Série Club, que j'avais découvert ça. Et voilà, j'adore cette série. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans Les Gardiens de la Galaxie 2, l'acteur qui jouait John Crichton, qui apparaît parmi l'espèce de peuple là, qui est tout maquillé en doré. Et après, lui et Claudia Black, qui joue l'autre rôle principal, ils ont tous les deux fini dans Stargate. Quand il y a, comment il s'appelle, MacGyver, là, qui est parti. Ils sont venus pour remplacer.
O'Neill.
Voilà. Bon, je la vends très très mal, mais vraiment, j'ai un amour pour cette série. J'adore toutes les rencontres qu'ils font, tout ce qui se met en place. Il y a une guerre contre une race qui s'appelle les pacificateurs, qui ressemble à des humains, mais voilà, qui ont des choses un peu différentes. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un méchant qui est super cool. Enfin voilà, donc vraiment c'est une super série et je peux que vous encourager à la voir. Donc voilà, Farscape. Un jour je ferai une émission dessus.
Ça fait des années que...
Ben, ouais. J'avais pas envie de la faire toute seule, donc voilà.
C'est moi, j'accroche pas, j'aime pas trop la SF,
mais
donc
elle a essayé de me la montrer. Je me suis jamais lancée dedans.
Ah, si je te trouve bien, je te passe. Faut que tu vois Farscape, c'est trop bien. Vraiment. Mais le perso de Claudia Black qui s'appelle Irinson, qui est un putain de perso de femme forte, elle est géniale, quoi. Vraiment, je l'adore.
Voilà. Alors, mais le perso qu'il a dans Stargate, c'est un peu un copier-coller de Crichton.
Ben, en fait, ouais. Ouais, ça ressemble un peu. Par contre, le perso qu'elle joue dans Stargate, c'est pas du tout pareil.
Ouais, c'est un autre. Elle joue une ancienne Goa'uld ? Non, il n'y a pas un...
Dans Stargate, je sais plus.
Je crois que ça.
Non,
peut-être
c'est
que
pas
les,
une.
Les fans de Stargate viendront me contredire.
C'est Vala, son perso. Je sais que j'ai retenu ça et je me rappelle plus ce qu'elle fait.
Complètement oublié.
Voilà. Il faudrait que je réécoute l'épisode que j'ai fait sur Stargate parce que j'ai oublié.
Dans le vaisseau, il y a un alien qui ressemble à un droïde dans Blade Runner. Peut-être.
Dans quoi ? Dans Farscape ?
Apparemment, pas d'après XP.
Tout. Pas du tout. Je vois pas de quel perso tu parles qui ressemble à l'android de Blade Runner.
Oui. Bah.
Ah bah, je vois pas de quel perso tu parles.
Hein, si, vous en discuterez. Vous en discuterez en privé. Angèle Luna, est-ce que vous avez
un rôle qui ressemble pas? Ah, mais elle ressemble pas. Ah, tu parles avec les cheveux, tu parles de Shyanna. Oui, voilà. Oui, avec les cheveux, mais après, c'est tout, c'est la coupe, quoi. Après, le reste, ça ressemble pas. Voilà.
C'est un autre débat que nous aurons dans une... Léna, si t'as une reco.
Moi, j'ai lu la première issue de Ultimate X-Men de Peach Momoko. Et franchement, j'ai plutôt bien aimé. Alors, il y a un style très manga, ça m'a un petit peu perturbé. Mais d'un autre côté, c'est assez original. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et on suit donc une jeune étudiante qui revient pour sa remise des diplômes. Et donc, elle a un ami qui est mort à l'époque où elle était étudiante. Donc, elle est un peu hantée par ça. Et on va lui donner une amulette qui va lui donner des pouvoirs. Donc, pour l'instant, je vois pas trop le lien avec les X-Men. À part que c'est un personnage des X-Men, visiblement, mais ses pouvoirs ne sont pas liés à une mutation. Donc, ça, c'est assez étrange. Mais le côté vraiment univers totalement différent de ce qui a été fait sur le reste de l'univers Ultimate, ça m'a vraiment intrigué. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Pour voir dans quelle direction ça va partir, parce qu'il y a vraiment une patte très particulière pour le coup.
Ok. Angèle, est-ce que tu as une recommandation à nous partager ?
Non, je suis toujours sur Final Fantasy.
Il y a 150 heures de jeu.
J'ai vu plein de gens qui disaient que la fin était bizarre.
Tu penses à te nourrir et à boire quand tu joues.
Ouais, non, t'inquiète. Moi, je connais déjà la fin. Malheureusement, c'est compliqué de pas se faire.
Moi, je me suis pas fait spoiler, mais j'ai vu plein de gens qui se plaignaient assez ouvertement de cette fin. Voilà.
De toute façon, ceux qui ont fait le jeu originel, d'un côté, tu sais un peu
quoi t'attends. Moi, j'ai fait le jeu, du coup, je connais. Je sais comment ça finit.
Mais c'est différent encore. Mais voilà. Je suis bientôt au rendez-vous au Golden Saucer. Normalement, c'est bon. J'aurai Aerith. Sinon, j'ai Barrett.
D'accord. Pas de recours. À part jouer à...
C'est bien déjà.
À FF.
Ouais, c'est bien.
Peut-être que j'aurai fini la semaine prochaine.
Ah voilà, tu vois, elle nous fait une série.
C'est une... Oui,
on a
c'est une... C'est une reco en feuilleton.
Ou en trilogie, ça finit la semaine prochaine. Non,
là, j'en suis à 70 heures de jeu et il me reste 3 chapitres. Ouais. Le premier, j'avais dû le faire en 30 heures. Quoi. Là, putain, je vais passer 100 heures dessus.
Bon. Bon, c'est le temps que passe mon mec sur les jeux en moyenne. Mais lui, il fait tous les trucs qu'il y a à faire. Quoi. Du coup, il y a certains jeux qu'il n'a jamais fini à cause du nombre de soumissions qu'il peut avoir.
Ah, et pour lui platiner, putain.
Il y en a qui sont faciles. Le Spider-Man 2, il était facile à platiner.
Du coup, on va passer, même si j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie, mais on va quand même. On va quand même passer.
Non, c'est moi.
Ah, j'ai cru que. Ok, c'est c'est que moi, apparemment. Ou que moi et Faye et Sophie.
T'en sais rien, moi, ce que je pense.
Ah, c'est parce que tu me dis.
Je donnerai mon avis, mais tu n'as pas à dire. Attention, c'est le seul mec, regardez, il fait déjà du mansplaining, il va nous expliquer ce qu'on ressent. Voilà.
Allez, c'est parti.
Tu parles pas pour nous, s'il te plaît. Faut te calmer. Hein.
Donc, on va relancer pour Instagram et TikTok. Même si j'ai pas compris, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent de TikTok là, mais j'ai fait 13 et 14 vues avec les deux dernières vidéos.
Attends, justement, 13 ou 14 vues, t'es pas sûr que c'est pas des likes plutôt que des vues?
Non, c'est des vues.
Super.
T'as mis des hashtags? Oula, je sais.
Mais en fait, je crois que je suis passé en compte business et c'est ça qui m'a.
Moi, ça a rien changé au niveau des vues, le compte business.
Ah ouais? Bon, bah. Bref. On verra. Si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à liker en masse les deux dernières.
Scammy XP, j'adore. Comme titre pour les news. On a supprimé Comics Discovery News.
Non, c'est plus.
C'est un peu long.
Déjà, c'est trop long.
C'est drôle, c'est très drôle, mais c'est un peu long.
C'est trop long pour l'instant. Je vais relancer.
Oui.
Quand Sophie aura fini son fou rire.
C'est bon.
Et si je pense que c'est Angèle qui clique très très fort. Si juste le temps de la review, tu peux arrêter de faire ou couper ton micro, parce qu'après ça va s'entendre sur. C'est un peu.
Ah, vous entendez
oui,
les
cliques. On entend
les
cliques, oui. Allez, c'est parti. Cette semaine, on vous parle de Love Everlasting et c'est Sophie qui vous en parle, si je dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait. Alors, au scénario, on retrouve Tom King. Alors, pour ceux qui connaissent pas Tom King, c'est un scénariste de comics américain qui a été reconnu pour son travail sur Mr. Miracle et notamment sur Batman. Il a reçu pas mal de prix et il a le vent en poupe. On le retrouve sur pas mal de choses. Voilà. Et après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Et comme dirait Sped, qui n'est pas là ce soir parmi nous, mais on va le représenter pendant un bref instant, il parle beaucoup de son PTSD dans ses comics. Voilà. Encore une fois, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà. Moi, de manière générale, j'avais bien aimé son arc sur Batman, mais j'ai pété jusqu'au bout pour d'autres raisons. Voilà. Au dessin, on a du coup. T'as déjà un peu teasé d'entrée, James. On a une Française, Elsa Charté, qui a débuté sa carrière comme actrice au cinéma avant de se mettre au dessin. Et elle a travaillé sur, alors je m'excuse d'avance pour la prononciation, Aeternum Vel, The Infinite Loop, ou encore l'adaptation de nouvelles de George R. Martin. J'ai pas trouvé le titre par contre parce que je sais pas si ça a été publié ça. Et du coup, elle se réclame de l'influence de Bruce Timm et de Darryl Cole. Et ça se sent au niveau
de
du
Darwin
dessin.
Cook plutôt.
Hein?
De Darwin
J'ai
Cook plutôt.
Pronto. Ah pardon.
T'as dit Darryl Cole. C'est un autre. C'est pas la même chose.
J'ai fait un lapsus.
Le triporteur.
Dans mes notes, hein. En plus, même pas.
James a des. Non. Réponds au chat.
Et du coup, moi, cette couverture du comics m'a vendu quelque chose qu'on n'a pas. Hein, c'est-à-dire, on n'a pas de veuve noire qui assassine tous ses hommes. Hein. C'est pas un spoil, on le sait dès le début. C'est pas du tout ça le concept. Le concept, c'est donc Joanne, une femme qui se consume d'amour pour George, ou Kit, ou pas mal d'autres personnes. En fait, elle commence une histoire d'amour, tout se passe bien, le mec lui fait une déclaration, la demande en mariage, l'embrasse et paf, elle change d'époque, change de vie et se retrouve dans une autre histoire avec un autre homme. Elle garde son physique et son nom, mais par contre tout change autour d'elle et au fur et à mesure elle commence à se rappeler que en fait il s'est passé quelque chose avant et elle semble confuse et perdue et essayer de comprendre avec nous ce qui lui arrive. Voilà, donc ça c'est le pitch de base, mais à la fois j'ai envie de vous dire que moi personnellement je n'ai pas trop, alors j'ai l'impression que c'est un truc à mystère et du coup je me dis bon bah sans doute il y a plusieurs tomes et on va nous révéler de plus en plus de choses, mais moi j'ai pas trop compris le concept, ou alors il y a des incohérences et l'un ou l'autre, enfin qu'est-ce qui est le mécanisme derrière le concept quoi. Parce que en fait, à des moments, elle switch à cause d'un baiser, et à d'autres moments pour un autre événement. Et t'as l'impression que quoi qu'elle fasse, le procédé continue. Et du coup, il y a pas vraiment de modification, je trouve, en termes de sur ce type de concept où quelqu'un est enfermé dans une bulle temporelle, etc. Normalement, t'as des petites variantes, et là, je trouve que la variante est pas assez grosse pour que tu puisses te dire, elle influence vraiment par ses actes et ses décisions, elle influence un petit peu le truc. T'as pas l'impression du tout qu'elle influence quoi que ce soit. Et du coup, t'as l'impression qu'elle est complètement passive dans l'histoire et qu'elle subit une espèce de histoire tragique que tu peux lire dans des romans à l'eau de rose ou dans des téléfilms d'M6 le dimanche après-midi pour ceux qui ont connu cette époque. Je sais pas si existe encore les téléfilms de M6 l'après-midi. Mais
non,
en même
ils
temps,
mettent des documentaires maintenant.
Ok, bon bah de toute façon Netflix maintenant fait plein de films qui ressemblent à des films de M6 de l'époque, donc voilà, notamment les films de Noël de Netflix, vous voyez le tableau, et ben moi c'est pas du tout ma cam, voilà, donc moi les trucs d'amour c'est pas du tout mon truc, du coup moi j'attendais avec désespoir que ce qu'on nous avait vendu à l'affiche soit appliqué dans le comics, et en fait non, cette brave femme ne tue personne, voilà, elle essaye de s'en sortir. J'ai eu un peu pitié d'elle, hein, mais voilà. Et j'ai l'impression qu'elle est piégée dans une espèce de mécanisme qui veut la forcer. Je sais pas, c'était le patriarcat, je ne sais pas trop. C'est pas vraiment dit. Et voilà. Après, le dessin est magnifique, vraiment. C'est très très beau. Moi, ça m'a rappelé un peu effectivement ses influences, mais ça m'a rappelé aussi les vieux comics des années 60-70 que ma mère en fait lisait. Et elle avait plein. Et effectivement, t'avais toujours des femmes qui étaient un peu dans des histoires romantiques, etc. C'était à peu près à l'époque où t'avais des aventures de Conan, et ben t'avais un peu la version pulp pour les garçons qui affrontaient des trucs dans des monstres, etc. dans la jungle, et la version fille qui était des jeunes filles en fleurs qui rêvaient du grand amour. Donc j'ai eu l'impression que c'est une référence à ça, mais voilà, en dehors du plaisir du dessin, j'étais pas hyper conquise par le titre. Voilà, moi j'ai eu la même sensation un peu que Vicious Circle, voilà. Je me dis, on est abonné au titre avec les boucles, où il y a le développement finalement ne se produit pas trop, et où moi j'ai vraiment l'impression que les mecs kiffaient faire plusieurs histoires différentes dans des époques différentes, mais au final j'ai pas l'impression que, en tout cas, le personnage évolue et que l'univers évolue. Voilà, moi j'étais un peu déçue sur ce titre.
Eh bien, merci Sophie. Comme tu es un peu négative, je vais faire pareil. Je trouve qu'il y a le titre il y a deux faces du même pièce où t'as le côté, j'ai l'impression que on me dit qu'apparemment ça bug. Donc je vais couper la cam de Faye.
Oui, vas-y, on s'en fout.
Non, c'est pas vous, c'est le fond.
Oui, mais c'est parce que c'est Mako et ça doit bouffer toute la co d'avoir la cam de
Faye.
Non,
mais vas-y, coupe-moi, on s'en fout de moi.
Tac.
Les gens s'en fichent.
Je vais quitter. Ça va me quitter juste ça, j'espère. Voilà. Oui, c'est bon.
Oui, c'est bon. Vous m'entendez toujours de toute façon.
Peut-être que c'est mieux. Je ne sais pas. On verra bien. C'est illisible et parfois une bouillie visuelle. Après, ça reste du podcast. Hein. Tu es là pour. Merci pour le sub XP. J'ai enlevé le truc. Hop.
Ouais.
Le visuel, ce n'est qu'un outil en plus. Donc mon avis sur The Love Everlasting, je trouve que j'ai l'impression que Tom King il a voulu essayer de rendre hommage un peu aux comics romance entre guillemets, et en essayant de montrer un peu plein de tropes de romance différents sur plein de petits récits, Ça, ça aurait pu être intéressant. Et en même temps, il donne cette espèce de... En vrai, moi, j'ai pas trop compris non plus.
Moi, j'ai
espèce de truc SF. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle était coincée dans la Matrix ou je sais pas quoi. Parce qu'effectivement, il y a une espèce de boucle temporelle. C'est pas une boucle temporelle, elle est coincée dans une boucle où elle doit refaire le même truc encore et encore. Je te passerai la parole après. Et du coup, en lisant, le problème, c'est que je me suis un peu focalisé sur le truc. J'avais envie d'avoir des réponses. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait. Et en fait, nous, on a lu que le tome 1 pour l'instant. Et je trouve que des réponses, il y en a un tout petit peu, mais il y en a vraiment pas assez pour que moi ça m'a pas donné envie d'aller sur la suite parce que vraiment c'est tellement vague. Et en plus en discutant un peu sur notre Discord privé, Angèle me disait que le tome 2 c'était là, il y avait autant de réponses qu'on était tout autant perdu. Peut-être qu'en le relisant, en me disant je vais essayer de me focaliser sur ce qu'il essaie de dire au travers des histoires d'amour, ça aurait été intéressant, mais comme je me suis dit, j'étais un peu pris par le truc de c'est quoi cette espèce de boucle dans laquelle elle revit. À chaque fois, elle se fait tuer et elle revient. À un moment où on nous parle, sans trop de spoiler, il y a apparemment sa mère qui est dans l'eau.
C'est juste la dernière page du bouquin.
Bravo.
Oui, mais de toute façon, on est tout le monde a une mère ou un père.
Ça, mais ce soir, c'est le festival.
Sa mère joue un rôle. Voilà,
doucement, tu vas. Après, oui. Tu vas dire que tu satures.
Effectivement.
Eh oui.
Donc sa mère joue un rôle. Je vous laisse dans l'expectative de découvrir quel rôle elle joue, tout en sachant que je ne sais pas quel rôle elle joue puisque ce n'est pas du tout révélé. On sait juste que il y a un truc avec sa mère apparemment.
Arrête de t'enfoncer.
Donc voilà. J'étais un peu ouais. Et effectivement, c'est beau. Effectivement, c'est très joli. Moi, je suis très fan de Darwyn Cook. Et Elsa Chartier, j'espère que, enfin, dire que c'est du, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est du sous Darwyn Cook, mais c'est elle espèce de singe Darwyn Cook, elle le réussit. Bon, je trouve que et elle l'égale pas, mais c'est sur certaines cases, ça peut égaler presque le maître. C'est très très beau. Moi, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup et dont je trouve que le taf est vraiment cool. Là, effectivement, même si je suis très très fan de ce que fait Tom King d'habitude, là, je suis un peu perdu et j'ai eu un peu du mal à voir où il voulait en venir. C'est un mouet. Voilà. Faye qui voulait à tout prix parler tout à l'heure.
Oui. Non, alors déjà, les dessins, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, tu citais Darwyn Cook. Mais moi, ça m'a fait penser à la série Why Women Kill. Et ça m'a fait penser aussi au générique de Ma Sorcière Bien-Aimée, avec les dessins. Donc ce côté un peu Desperate Housewife et compagnie. Et après, au niveau de l'histoire, alors là, j'ai eu beaucoup d'influences qui sont passées devant mes yeux. J'ai pensé à un épisode de Lois et Clark. Qui se situe après leur mariage où il y a une histoire de malédiction et ils revivent différentes époques parce que leurs âmes ont été maudites par un gars qui est en fait l'ancêtre de Timbus. Bon bref, si vous connaissez la série, vous savez. Donc j'ai pensé à ça. Après j'ai pensé bizarrement à un épisode de Buffy de la saison 2 où pendant le bal de Sadie Hopkins, il y a un fantôme qui prend possession de Jean et qui rejoue en fait le drame qui s'est passé entre lui et la femme qu'il aimait. Voilà, un épisode qui est très très cool si vous avez vu. C'est le 19, je crois, de la saison 2. Je crois, si je me trompe pas. Et bref, j'ai plein de choses qui sont pensées comme ça. Puis j'essaie de me dire, pareil, mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc après, j'ai pensé aussi à Claude Atlas avec ses histoires d'âmes qui voyagent au travers le temps et qui se retrouvent et tout. Donc je me suis dit, est-ce que c'est une histoire d'âmes sœurs qui se retrouvent et qui sont maudites? Parce que finalement, voilà, il s'est passé, donc pour revenir au côté PTSD, peut-être que le perso de Joanne a été traumatisé et va rejouer et revivre son traumatisme pendant toutes ces vies-là. Est-ce que c'est elle peut-être qui quelque part ramène avec elle l'âme de son compagnon qu'il aurait peut-être tué? Vous voyez, je suis partie super loin parce que c'est vrai que ouais. l'histoire en elle-même eh ben, nous donne pas beaucoup d'informations. Et là encore, je vais rapprocher avec la série Why Woman Kill qui présentait des histoires de couples sous différentes époques, mais liées à un lieu, donc à une maison. Et on pouvait voir ça aussi comme une espèce de malédiction sur ces couples-là. Donc je me dis, est-ce que cette histoire, ça va être ça, au final, une histoire de malédiction liée soit à l'âme, soit à un lieu, soit à quelque chose. Voilà, j'essaye de comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Est-ce que c'est l'histoire de quelqu'un qui est tellement traumatisé et qui imagine que toutes les histoires d'amour sont vouées à l'échec, sont pareilles, comme dans la chanson d'Eretta Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal. Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'histoire d'une fille qui est seule et qui rêve à des histoires d'amour comme au tout début de l'histoire où elle commence par fantasmer l'histoire d'amour avec le personnage avant de pouvoir la vivre. Je ne sais pas. Après, je lis beaucoup de webtoons en ce moment et il y a beaucoup d'histoires où genre ça commence, le perso meurt et elle repart en arrière dans le temps et elle se dit « Oh, je vais changer ma destinée ». Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a plein d'influences qui viennent en moi. Mais ce titre-là, voilà, c'est pas moche. Oui, c'est pas fou, mais c'est une histoire qui, quelque part, donne envie d'imaginer des choses, donne envie d'essayer de comprendre. Et j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette pauvre Joanne, ma petite. Si vraiment t'es avec un mec toxique au point qu'il te pourrisse ta vie à chaque fois que tu vis une nouvelle vie, mais quitte-le, meuf. Tue-le une bonne fois pour toutes et quitte-le. Moi, j'ai envie de te dire, vas-y, prends de la force en toi et vis ta vie, parce que là, ma pauvre petite, je te plains, quoi. Voilà. Mais c'est pas extraordinaire. C'est pas le pire truc que j'ai lu. Et effectivement, ça m'a fait emballer mon esprit d'imagination. Voilà.
En fait, t'es allé chercher les réponses qu'on te donnait pas, quoi.
Ah oui, moi, quand j'ai pas les réponses, j'aime bien essayer de deviner qu'est-ce que ça pourrait être, et je trouve ça stimulant, voilà.
Mais en vrai, il y a un truc qui m'a gêné, je sais pas si vous avez la même chose, c'est que en fait, donc il y a le personnage de Joanne qui revient tout le temps à chaque histoire, et il y a un autre personnage. J'ai peut-être spoilé un peu, donc je vais rester vague. Mais donc il y a un autre personnage qui revient, mais des fois, selon les récits, c'est un personnage qui est ancré dans le récit, qui la suit depuis le début, et puis d'un coup qui se révèle être cette autre menace. Et des fois c'est il est totalement extérieur à l'histoire qu'on a suivi dans le dans la petite histoire. Et c'est assez, moi ça m'a perturbé, je suis en mode mais c'est qui ce mec
là? Tu parles par rapport au récit où elle est bibliothécaire?
Oui, mais ouais. Du coup...
Donne parce la parole à Angèle.
Non, là, justement, c'est différent. Parce que dans ce récit-là, en réalité, elle a essayé de fuir et elle est passée sous le radar. Donc, s'il s'intègre au récit, c'est parce qu'il la cherche.
Ah, donc il n'y avait pas de...
Ouais, ouais.
Mais il n'y a pas des autres moments où il est le...
Enfin, il y avait l'espèce de meuf qui cherche... Qui est des espèces de guide pour les couples en perdition, je sais pas quoi là.
Mais ça aussi, c'est la fin.
Bon, ouais. Ouais, je voulais pas en parler pour pas spoiler, mais oui, il y a des trucs moi qui m'ont fait tiquer, moi, rien que le passage d'une époque à une autre, quoi, déjà. Mais bon.
Mais qu'est-ce que vous en pensez, Angel et Elena? S'il y a une des deux qui veut se lancer.
Vas-y, continue, Angel, puisque t'as commencé.
Moi, j'ai bien aimé les récits, donc j'ai lu les deux tomes. Donc c'est sûr que tu te poses plein de questions, t'es aussi paumé que Joanne à te demander mais pourquoi elle est bloquée comme ça, qu'elle revient à différentes époques et à chaque fois c'est toujours le même schéma, elle va rencontrer un homme, elle va tomber amoureuse et elle va finir à une autre époque et c'est une histoire sans fin. Et le premier tome met en place, on va dire, des petits récits, on va la voir à différentes époques, tomber amoureuse et voilà le schéma classique, et la voir, elle, réaliser qu'il y a quelque chose, même des fois, elle est perdue parce qu'elle est dans son truc, elle a ses pensées à se dire « Ah, telle personne, voilà, je t'aime, mais tu ne peux pas parce que tu es avec ma meilleure amie, un truc comme ça. » Et d'un seul coup, tu as une autre pensée où elle réalise qu'elle va dire des noms d'autres hommes qu'elle a connus à d'autres époques et tout ça. Donc, tu la vois petit à petit se réveiller par rapport à tout ça. Donc, bon, je me demande s'il n'y a pas aussi au niveau de ces différents récits d'exploiter, de montrer les relations amoureuses à différentes époques.
Ouais.
Parce que t'as quand même ça. Regarde, à un moment donné, il y a une histoire où elle a grandi en même temps qu'un, on va dire, un bourge. Voilà. Et elle allait fille de...
Boniche.
domestique, elle devient domestique, voilà, et bah, elle est amoureuse, mais bah, tu ne peux pas avoir de relation quand tu viens de différentes classes sociales.
Il joue avec des types de romances différentes, en fait. Ouais.
Voilà, avec les différentes époques. Dans le deuxième tome, on va être sur un récit long. Là, ça va plus être sur différentes époques, ça va être sur un récit beaucoup plus long. Ça va se passer en 1963, et on va avoir là une romance qui dure. Mais il y a quelque chose à la fin où tu en tires. C'est ça, c'est vraiment, on te met des petits trucs. Parce qu'il y a un truc à la fin où tu comprends où là, pourquoi la romance, elle a marché, même elle le sait. Et après ça enchaîne. Alors si tu veux voir du sang, Sophie, et la voir dans le tome 2, à un moment donné tu as ce qu'il faut.
Tu me donnes envie de le lire,
parce qu'il y a ça, tu as aussi ça. Ouais, mais c'est voilà, c'est, le truc c'est que la série est longue, elle étire le concept. D'accord. C'est, il y a vraiment ce côté là où tu te dis tu veux des réponses, et t'attends et t'attends et t'attends, on te donne un petit grain de sable et tu attends.
J'avoue
tu attends,
que
tu
j'ai
attends.
À un moment donné, j'ai commencé à m'y aller à lire en diagonale, moi perso, hein. Tellement j'en pouvais plus de différentes histoires d'amour, il y a 0 indice, quoi.
Ouais, mais c'est voilà, t'as que les indices à la fin. Et là, pareil, dans le tome 2, c'est à la fin où on commence à te donner quelque chose, mais majoritairement, on t'apporte un tout petit peu de réponse qui va t'amener beaucoup de questions derrière. Donc, je sais pas parce que la série, elle est toujours d'actualité aux États-Unis, je sais pas combien de temps va durer. Et moi, j'ai peur que c'est le côté que ça va s'essouffler parce que ça étire vraiment trop. Même si on voit Johan, donc, prendre conscience de qu'il y a un problème, de la voir se rebeller, de devenir plus violente. Même là, à un moment donné, on la voit qui attend un piège au gars, au cow-boy. Elle lui tend un piège et elle essaye de le flinguer, quoi. Donc, on la voit quand même un peu plus... mais c'est marrant parce qu'il y a des moments où tu la vois beaucoup plus violente, puis après, tu vas la voir retomber dans son côté de petite femme parfaite amoureuse. Mais bon, je pense que dans son esprit, ça doit être aussi un peu le bordel.
Il y a Aurélien Perrault qui nous dit sur YouTube, puisque je ne l'ai pas dit, on est en live sur YouTube et sur Twitch, n'hésitez pas à venir le mardi à 21h pour discuter avec nous. Il nous dit « Bonjour, j'ai lu également les deux tomes, mais sur le deuxième, il y a des pertes de repères, notamment sur la temporalité, car il y a une vie qui passe, mais aussi le temps qui est figé. C'est peut-être un des récits les plus mystérieux de Tom King. »
Ok.
Parce qu'en gros, ça se passe en 1963 et ça va se passer tout le temps en 1963. Que Joanne en ait 24, 50, 60, on sera toujours en 1963. À un moment à dire, je me suis mariée en 1963. Mon fils, il est né en 1963. Enfin, voilà. Il y a même tu vas l'avoir un peu.
Et c'est ça qui fait vraiment vraiment Matrix en fait, avec le côté, elle est dans une espèce de réalité un peu virtuelle. Qui peut être changé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Bah, je pense pas qu'on va être sur de la SF comme ça. Après, voilà. Vraiment, j'attends de voir la conclusion. Comment ils vont conclure ça. Parce que ça peut être totalement casse-gueule. D'expliquer vraiment la fin du pourquoi elle est tout ça. Parce que pour moi, c'est vraiment un truc qu'on essaye de lui apprendre une leçon sur l'amour. Bon, d'un côté, le cow-boy dit essaye de lui faire comprendre que l'amour est éternel et tout ça, mais t'as l'impression que quand elle tombe amoureuse, on veut l'en empêcher en la tuant et en l'envoyant.
Bah même ou alors c'est même au début, elle est pas tuée. Les tout premiers débuts, elle l'embrasse, tout va bien et boum, voyage. Alors sauf si il y a une ellipse, on nous cache quelque chose, mais dans ce cas-là, faudrait le dire.
Je pense,
si ça manque pas de clarté justement à ce niveau-là. Comment ça... En fait, le truc, c'est que je pense que c'est pas clair sur le fonctionnement du truc de base, parce que la toute première fois qu'elle switch, le mec l'embrasse, elle lui a après lui avoir demandé en mariage. Deuxième fois, pareil.
Non, mais des fois, tu comprends à un moment donné qu'elle ne se souvient pas, tu vois pas le gars tirer, et elle s'en souvient pas forcément, mais à un moment donné, elle évoque des souvenirs justement sur ça, que quelqu'un lui aurait tiré dessus. Donc c'est un truc pour moi qui se passe.
Moi, je vais vous dire, je pense que le perso est dans le coma et que tout ce qu'on voit, c'est ce qu'elle vit dans le coma. Et je pense que son mec, elle est tombée sur une relation toxique et que son mec, il a soit tabassé, soit tiré dans la tête ou quoi, elle a un traumatisme et elle revit tout ça et elle se dit, si j'étais à une autre époque, est-ce que ça aurait été différent? Et c'est peut-être ça qu'elle revit dans son délire.
Et moi, je rebondis. rebondis sur ton truc. Je pense pas que c'est la bonne théorie, mais imagine, elle est dans le coma et en fait, elle s'est fait tirer dessus par un cow-boy dans un braquage, un truc tout con. Et en fait, elle est en train de vivre les téléfilms qui passent à la les feuilletons qui passent.
Elle est fan des productions Hallmark et dans les productions Hallmark, t'as tout un univers étendu avec les enfants qui font des suites et des machins. Ils font des cycles et tout ça, genre des cycles Jane Austen, des cycles Saint-Valentin, des cycles printemps, Noël et compagnie. Et elle revit tout ça parce que c'est son éducation.
Après c'est Tom King, il y aura forcément un lien avec le petit.
Mais moi je suis sûre que Joanne c'est une femme battue qui vit avec quelqu'un de toxique et en fait son compagnon c'est le croque-mitaine qui vient et alors qu'elle est dans le coma et qui vient la hanter dans le coma et elle a beau essayer en fait du positif.
Il y a Aurélien qui
sortir,
veut du Lynch dans le chat et
qui dit
mais oui, partage le point de vue d'Angel. Ce qui est intéressant aussi c'est que Joanne est à la fois des réminiscences de ses vies passées mais aussi il y a des choses que nous voyons qui lui échappent. Il y a Isoka Parker qui nous dit ça ressemble plutôt à une vengeance ou une torture. Effectivement, j'y ai un peu pensé. Elle n'a pas le droit d'être, heureuse.
Le côté trauma, tu l'as, puisque le fait de vivre plusieurs vies, le fait qu'elle voit des gens qu'elle aime, enfin qu'elle va perdre, elle a ce côté à un moment donné de plus en plus à s'enfoncer un peu dans la folie.
Puis la violence qui revient, voilà, c'est vrai, des
bulles d'armes. Et Léna, qui a toujours pas donné son avis.
Oui, vas-y, Léna.
Je balance dans le débat.
Donne-nous tes théories, vas-y.
Ouais, moi j'ai passé un bon moment. Alors Tom King, ça reste quand même très verbeux, hein. Mais là, je trouve que ça m'a pas dérangé parce que ça sert vraiment le récit, la narration est intéressante et puis ça t'aide un petit peu à comprendre le point de vue du personnage. Je trouve que t'as une vraie évolution parce que je vais pas répéter ce qu'on a dit, mais c'est vrai qu'au début, tu vois vraiment qu'elle est très passive, elle subit le truc et elle comprend pas forcément ce qui se passe. Et plus ça va avancer, plus elle va avoir conscience de ces changements d'époque et plus elle va essayer de comprendre par elle-même aussi le mécanisme, comme nous en somme, de savoir parce que elle sait pas forcément ce qui se passe non plus. Donc elle essaye tout comme nous de comprendre. Ça, je trouvais que c'était intéressant. Puis le fait de pas avoir toutes les réponses, ça m'a pas gêné. Au contraire, c'est ça qui m'a vraiment accroché, qui m'a donné envie de suivre le truc. Je trouve qu'à la fin, on a des éléments. On n'a pas de réponse franche, mais on a des éléments, en tout cas, qui donnent des pistes et qui permettent de faire des théories. Et c'est clair que juste le tome tout seul, effectivement, pour moi, il est là pour poser les bases, pour vraiment nous faire comprendre l'univers en lui-même, le personnage et les bases de ces boucles. Et c'est vraiment dans la suite, en fait, que ça prend aussi de l'intérêt. Donc, je comprends que pour juste un premier tome, si t'es pas accroché et que ça te donne pas envie de lire la suite, ben c'est compliqué. Moi, au contraire, ça m'a donné envie de lire la suite. Et j'ai pas fini le tome 2 encore, mais j'en ai lu une bonne partie. Et je trouve que t'as quand même des éléments de réponse. Le fait que tu changes de cadre, et comme tu le dis, Angèle, qui est cette temporalité fixe, ben ça pose de nouveaux enjeux et ça t'aide aussi à la compréhension. Donc, moi, ça m'a vraiment accroché. Les dessins, ils sont vraiment top. Et j'espère que par contre le voyage en vaudra la peine quand même. Mais pour le coup, je trouve que ça fonctionne bien et le côté vraiment mystérieux et nébuleux, moi ça m'a pas gêné.
Moi je tenais à souligner aussi un autre truc, parce qu'on parle de Elsa Chartier, on parle de Top King, mais c'est Matt Hollingsworth à la colo et je trouve que la colo elle est vraiment cool.
Ouais.
Ça fait vraiment le taf et il y a vraiment ce côté un peu de ces années-là. Un côté vintage et un côté vraiment moi ça m'a vraiment pensé même des vieilles BD de romance quand une époque où le super-héros en slip ça marchait plus trop et que qu'il y a une bonne partie des éditeurs qui faisaient ce genre de récit, ça m'a fait penser à ça. Donc la colo et le dessin vraiment ils sont super, hein.
Cool. C'est un titre qui est pas facile, tu vois, je te disais en off que je savais pas comment en parler. Mais c'est pas inintéressant, mais je sais pas comment vraiment en parler de façon simple parce que ça pose beaucoup de questions. Et je trouve que, tu vois, ça aurait été bien d'avoir le... En fait, je pense qu'on peut pas donner un avis vraiment définitif tant qu'on n'a pas tout le récit en entier, je pense. On peut dire si ça nous tente ou pas de suivre la suite, mais c'est vrai que tu pourras pas faire une vraie analyse tant que tu n'auras pas tout. Bah oui, moi j'ai envie de, parce que quand il y a des mystères, j'aime bien mener l'enquête. Voilà, donc je veux des petits trucs en plus. Moi je suis, j'ai déjà tout écrit, vous avez vu, je suis partie dans plein de directions. Voilà, mais je suis assez curieuse du pourquoi du comment. Après moi, Tom King, c'est un auteur que j'aime bien. Donc c'est ça qui m'attire, et puis des dessins. Mais c'est vrai que c'est pas un titre.
Moi, je suis sûr que c'est un truc
bravo à Sophie, parce que c'est pas facile à faire la review.
Ouais, bah moi je suis désolée, je suis un peu descendue et j'ai pas du tout envie de lire la suite. Franchement, c'est trop long, c'est trop autour de la romance, mais sans... En plus, c'est vraiment typiquement la romance que je déteste, à savoir celle qui s'arrête au moment où une histoire d'amour commence pour moi. Il y a une différence entre le désir et l'amour, et là, c'est juste le désir qu'on n'a pas l'amour. À part peut-être sur l'histoire là, avec le vieux seigneur, là, l'espèce de Janner du pauvre, sauf que c'est de l'anti-Janner, en fait, parce que Janner, justement, c'est deux êtres qui font le chemin l'un vers l'autre, et là, le mec, à la fin, qui se rattrape, bah non, ça marche pas comme ça, la vie.
Nouvelle théorie, c'est peut-être une sorcière qui, en fait, a des vues sur un mec qui fait du harcèlement, elle se fait tuer à chaque fois parce qu'elle essaye de revenir pour choper le mec.
Elle a l'air de subir le truc. Hein,
Ouais, mais bah oui, parce qu'on est de son point de vue, mais si ça se trouve, elle est peut-être complètement folle.
C'est peut-être une sirène qui s'est fait maudire, par contre. Ah, parce que les peut-être sirènes, aussi. Deviennent humaines à partir du moment où elles tombent amoureuses d'un homme, dans la légende, en tout cas.
Mais oui.
Mais ouais, enfin, pour moi, ça, c'est trop long. Ça m'a énervé, en fait. J'ai l'impression que, genre, on me balançait des indices, que je me disais soit c'est incohérent, soit il nous manque pas mal de choses. Et du coup, je me dis, en fait, ils ont enlevé des trucs pour justement créer du mystère, mais j'aurais préféré qu'ils mettent ces éléments et qu'on comprenne pas au début ce qu'on voit et qu'ensuite on nous l'explique, quoi. Là, je trouve que, en fait, le seul moyen d'expliquer tout ça, que ce soit cohérent, ça veut dire qu'on nous a caché volontairement des trucs, qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Et moi, je trouverais ça facile, quoi. Et ça m'énerve encore plus d'imaginer ça, en fait. De me dire, le mec, il a coupé dans le bousin pour essayer de faire du mystère au lieu de vraiment écrire mystérieusement, quoi. Et voilà. Du coup, ça m'énerve, ce type d'écriture. Pourtant, voilà, j'avais bien aimé son Mr. Miracle et certains de ses Batman, pas tout. Mais là, ça m'a pas plu. J'étais un peu énervée.
Tu lises Strange Adventure, c'était vraiment bien. Et son Vision aussi, il est trop cool. Ouais. Et j'en profite, je triche un peu. Tu parlais de Jenner et ça me fait penser à un truc. Et du coup, je fais une reco alors qu'on n'est pas au moment de la reco. Mais ce week-end, on a regardé un docu avec Faye sur Arte. Il est disponible sur la chaîne de Arte.
Il était
vraiment
pas terrible, j'en ai vu des mieux. Hein.
De quoi ?
J'en ai vu des mieux sur le même.
Bon, sujet. Moi, c'était la première fois que j'avais un lien avec cette histoire. Donc, c'est un document sur Emily Brontë et sur les hauts de Hurlevent.
J'adore.
Et comment le bouquin de, enfin le docu est vraiment super intéressant.
Faut qu'on fasse dans les
si
livres
vous
de.
Pas, encore une fois, c'est pas, c'est, ça va pas vous remonter le moral. Hein. Vraiment, la pauvre Emily Brontë, elle a pas eu une vie facile et c'est assez déprimant comme histoire. En vrai, toute la famille Brontë.
Hein, salut le. Si tu lis le bouquin pour le coup, les hauts de Hurlevent, c'est super déprimant, quoi. Mmh. Pour le coup, là, c'est vraiment une histoire de relation toxique.
Ah oui, bah ça.
Oui, effectivement. Donc en tout cas, le docu est dispo sur Arte. Il est vraiment intéressant. Ouais. Et allez pas lire les commentaires parce qu'il y a plein de commentaires un peu racistes. Voilà, je vous préviens. Donc voilà. On va se demander plutôt que si c'est un coup de cœur ou pas. Est-ce qu'on va continuer ? Donc bon, Angel, apparemment, elle a été accrochée.
Moi, je veux savoir la fin, donc je vais continuer la série. Puis si ça me plaît pas, au bout, je revendrai tout.
D'accord. Léna ?
Bah, pareil qu'Angèle.
Avec ou sans la revente à la fin, si ça te plaît pas ?
Bah, pareil.
Ah mon dieu, quand il n'y a plus de place, tu sacrifies, hein, t'as pas le choix. Hein.
Oui. Faye ?
Je vais lire la suite, oui.
Et bah, moi, je suis team Sophie. Et je lirai pas la suite. Enfin, ça m'a pas. C'est très très beau, mais. Puis je suis pas assez fan de romance pour pouvoir vouloir continuer.
Ah, c'est match.
Ah ouais. Peut-être.
Bah non, regarde, moi je suis une meuf et j'aime pas la romance, vraiment, c'est un truc qui me saoule.
Moi j'aime quand c'est con, ça me fait rire.
En plus, c'est pas match, j'aime pas les couples, mais les célibataires qui sont dans leur coin et qui font leur vie, ça me pose pas de problème.
Alors moi j'aime bien les couples genre qui vivent et etc, mais genre avoir juste le début de l'histoire et pas le milieu et la fin. Je trouve que c'est nul. C'est comme si on te mettait le teaser d'un film et tu n'auras jamais le film, quoi. Enfin, c'est
pas intéressant. Ouais, ça manga, me fait rire parce qu'il y a beaucoup de mangas où c'est que ça. T'as juste le moment où ils se mettent ensemble, puis après le.
Ah, mais tu vois, dans les webtoons, ils vont un peu plus loin. Ils vont jusqu'au moment où ils ont un gosse, tu vois.
Et il y en a qui disent qu'elle aime pas les romances non plus.
Mais moi, en fait, ce qui me fait rire, c'est que tu lis le truc. Enfin, déjà, moi, je me fous d'eux parce que c'est n'importe quoi. Mais à la fin, je me dis, ah, vous, dans un mois, vous êtes plus ensemble. Ou genre, dans un an, vous êtes divorcés. Parce que t'as des trucs, c'est pas possible. Des gens qui sont tellement différents et tout. Enfin, c'est pas possible, ça dure. Enfin,
mais c'est vraiment
trippé, quoi.
Je me posais la question par rapport à Dark High la semaine dernière où on avait tous détesté. Et bon, à part Angel qui en disait du bien.
Ouais.
Et il y a des gens qui en commentaire sont venus défendre Angel à corps et à cri. Bah, c'est très bien pour Angel. Il y a des gens sympas. Et j'ai vu plein de gens sur Twitter qui disaient ah oui, Dark Crad, c'est trop bien et tout. Et je me suis vraiment demandé, est-ce qu'on est devenu aigri en fait à force de dire des trucs chaque semaine? C'est nous qui sommes.
Bah, vous êtes devenu moi il y a quelques.
C'est vrai. La toute première fois que je suis venue dans l'émission, Angel, t'étais vénère. Je me suis dit, mais pourquoi elle est vénère comme ça? Je te comprends maintenant.
Non, mais après,
je pense que ça dépend les genres. Moi, je sais que
genres,
tout ce qui est fantastique, horreur, j'en bouffe tellement que, en fait, s'il n'y a pas un petit truc, tu vois, qui va m'accrocher, bah, je suis vite, en mode next, quoi. Enfin, c'est.
Ouais, je suis assez cliente de l'horreur, hein, mais. Enfin, un titre qui va être moyen en horreur.
Dark Ride, c'était de l'horreur, hein. Et t'as pas aimé.
Ouais, mais je croyais que c'était pas terrible, quoi, vraiment. Celui que j'avais.
Ne remettons pas une couche.
Pour une chronique écrite que tu m'avais passée cet été.
Hôtel, ouais.
C'était pas non plus waouh, mais il y avait tous les ingrédients qu'on demande à ce type d'œuvre, en fait. Et ça marchait. Mm-hmm. Au minimum, tu passes un bon moment à le lire. Mais c'était pas révolutionnaire non plus.
Moi, c'est pareil, j'avais bien aimé
ma demande
Silver
minimum,
Coin, par exemple.
C'est que ça remplisse les codes du genre et que tu aies au moins ce que tu as acheté, quoi. Enfin,
Faye, tu voulais dire quoi?
Ouais, non, moi je sais que j'avais bien aimé des titres comme Silver Coin, qui étaient des titres, tu vois, anthologiques, petites histoires qui étaient sympathiques. T'avais vraiment un côté un peu conte de la crève. J'aime bien quand c'est un peu. Tu vois, Sophie, comme la série de Del Toro, là, le cabinet de curiosité, où c'est un peu, un peu humour noir à la fin, un peu.
On est en train de digresser totalement.
Voilà,
là,
et c'est ça qui me manquait. Bon, voilà.
Est-ce qu'on est un peu aigri? Dites-nous dans les commentaires si vous nous trouvez aigri ou pas.
Mais excuse-moi, moi je dis toujours les choses dans la bonne humeur, avec des arguments. C'est vous qui vous énervez. Hein,
on s'est pas énervé, on disait juste les choses.
J'avoue que j'étais un peu énervé. Non, mais c'était. Moi, on vend un truc et j'ai pas du tout ce que. La couverture te vendait quelque chose qui n'est pas dans le bouquin. Voilà, moi, ça m'a énervé.
Ok. Eh ben, il y a des gens qui constatent, Wally écoute l'émission sur Drag Race.
De toute façon, on l'avait dit.
Ou pas,
et on l'avait dit, de toute façon, il faut se faire son propre avis.
Oui,
les émissions, on n'est pas là pour vous dire, lisez pas ça, bande de petits canailloux. Non, au contraire, c'est genre, on partage votre avis,
cool,
quel est le vôtre.
Quoi qu'il arrive, c'est comme ce titre, c'est que ça vous plaise ou pas, au moins vous en aurez pour vos yeux seront bien remplis.
Mais juste, je disais, la critique est un outil.
Du coup, je préfère Elsa Chartier à André Bresson.
Non, je disais, la critique est un outil de discussion, une ouverture comme ça aux échanges.
Voilà,
il ne faut pas que ça remplace votre avis.
Et sur ce, Comics Discovery va se terminer pour cette semaine. Mmh. Puisque je le rappelle, pour les gens qui n'étaient pas là au début, puisque effectivement nous sommes en live, donc, je le disais, on va arrêter Comics Discovery News pour lancer une nouvelle émission où on va parler de toutes les news de la pop culture et pas que du comics. Comics Discovery News, c'est fini. Donc, Comics Discovery. Enfin, bref, vous avez compris, je vous en ai déjà parlé. Si vous n'avez pas entendu, allez au début, j'ai fait un quart d'heure pour expliquer le pourquoi du comment. La semaine prochaine, je ne sais pas trop, parce que je suis en expectative. J'attends des retours d'éditeurs pour savoir de quoi on va parler. J'aimerais bien qu'ils répondent à mes mails. Ce serait bien.
Ah, tiens, t'as calculé l'émission de quoi on va parler.
Ouais,
ou
on verra.
Code 9,
on verra.
Tu vois, code
donc,
9 docteur,
pas, à venir la semaine prochaine, à partager cette vidéo partout et ce podcast sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description pour aller voir ce que font les autres, les chroniqueurs, ce que font Faye, ce que font Sophie, Léna et Angel. Bon, Angel,
elle
ne fait que comme.
Ce que ne fait pas Angel.
Si, Angel, elle joue
très bien.
Angel, elle joue à Final Fantasy.
Ouais.
Mais elle pourrait jouer avec les auditeurs sur Twitch.
Ouais. Bientôt, on t'en stream. Pourquoi tu stream pas tes parties?
Non. J'aime bien râler toute seule de même côté.
Mais sinon, tu fais du commentaire de partie, tu le sors en podcast, et ça s'appelle Angel joue, et on
Angel
t'écoute.
Joue,
non, tu pourrais, si tu t'énerves,
Angel
tu pourrais râle. Appeler un gris Angel.
Puis quand je triche, je vais pas monter.
Ouais, t'inquiète, il y a plein de gens qui... qui se gênent pas pour tricher.
Regarde, le dernier Zelda, moi j'ai fait la triche pour avoir l'épée.
Et ben justement, tu donnes des astuces de triche. Ah ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais ado et que Internet n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui.
Ouais, on achetait des livres de magazines.
Mais j'ai encore les magazines de code pour Final Fantasy VIII avec la carte.
Arrêtez, s'il vous plaît. Pardon.
GTA.
Le titre de ton émission, ça sera le jeu vidéo, c'est mon dada. Retiens.
Voilà, exactement, avec Omar Sharif et Angel. Mais il est pas mort, Omar Sharif.
Si, il est mort, mais il peut venir en fantôme. Hein. On peut demander à Michel Sardou de l'invoquer.
Quelqu'un limite sa voix, c'est inimitable.
D'accord. Le docteur Jivago et Sonic en même temps. N'importe où je vais. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir dans la nouvelle émission où vous parlez de pop culture, vous parlez de ciné, de série. Vous verrez.
Ah, j'ai trop hâte.
Il va y avoir tout plein de trucs. Sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.
Bye.
Ciao tout le monde.
Salut.